السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ خير شيخ سيء الإسلام، nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité d'être réunis ce jour de dimanche dans la dernière décade du mois de Ramadan pour essayer de faire un bilan de notre situation spirituelle, notre état spirituel à cet instant après avoir passé à peu près 19 voire 20 jours dans ce mois béni de Ramadan. Ikhwan ya khawati fillah, comme on a pu voir à travers le titre, on va essayer de parler de trois catégories de personnes: ceux qui se préparent pour le Eid, ceux qui se préparent pour la dernière décade de ce mois béni, et ceux qui se préparent à rencontrer Allah Azza wa Jal, en insistant sur la deuxième catégorie, ceux qui se préparent pour la dernière décade, et essayer de voir quels sont les points positifs, mais quels sont également les pièges de Shaitan à éviter, et voir comment est-ce qu'on peut monter de niveau spirituel pour arriver directement vers cette troisième catégorie, ceux qui se préparent à rencontrer Allah Azza wa Jal. Que ces personnes soient âgées de 80, 90 ans, ou qu'ils aient 15, 16 ans, 18 ans, l'objectif reste le même: préparer son retour vers Allah Azza wa Jal. Nos sincères remerciements à la masjid, le comité de Saint-Pierre qui, bi'idhnillah, nous donne cet honneur et cette possibilité de venir tous les ans depuis pas mal d'années, alhamdulillah. Il y a plein de personnes qui ont le potentiel, la possibilité d'intervenir. C'est vraiment un signe de muhabba. Et je rappelle que l'objectif de l'intervention, c'est un rappel mutuel. C'est un rappel mutuel. Il n'y a pas un donneur de leçons et des personnes qui sont là pour écouter dans quel genre de perdition ils sont. Est-ce qu'on est proche de l'enfer? Est-ce qu'on est perdu? Est-ce qu'il y a un espoir? Non, on n'est pas du tout. Wallahi al-azim, on n'est pas du tout de cette configuration. Il n'y a pas une personne qui est meilleure que l'autre de cette assemblée. Allah seul peut juger les cœurs. On est là juste pour faire un travail de rappel. On a besoin de faire un constat, de voir, comme on a dit tout à l'heure, où est-ce qu'on en est exactement. Parce que celui qui avance, sans jamais s'arrêter, sans jamais examiner qu'est-ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, sans jamais examiner quelle est la qualité, surtout la qualité de ses actions, est-ce que j'avance vers mon objectif, ou alors je suis en train de tourner en rond? Quand on tourne en rond, on a l'impression qu'on avance aussi. Vous prenez une voiture qui, mashallah, est très puissante, ou une moto, vous pouvez tourner à 180 km/h en faisant un même trajet pendant je ne sais combien de temps. Vous n'avancez pas, vous faites du surplace. On a besoin de voir, est-ce que toutes ces prières qu'on est en train de faire, ces 20 salat, raka'at de tarawih, l'intikaf qu'on va s'apprêter à faire pour certains ce soir, tous ces adhkar, ces lectures du Coran, tous ces efforts, l'expression de notre motivation religieuse, notre envie de nous soumettre à Allah Azza wa Jal, est-ce que tout ça, ça a un sens? Ou ça n'a pas de sens? Parce qu'une personne peut s'évertuer à jeûner, à prier, à faire le dhikrullah, à faire plein de bonnes choses, mais la personne ne s'approche pas d'Allah Azza wa Jal, pour différentes raisons. C'est peut-être qu'il y a des péchés avec ça qui le ralentissent. Ou alors il manque de qualité spirituelle pour porter plus haut ses a'mal zahira, ses actions extérieures. Il y a beaucoup de raisons. Et notre objectif, c'est vraiment de voir, est-ce qu'on est... On est dans le droit chemin, on a la foi, on est à la surat al-mustaqim, mais est-ce qu'on avance vers notre objectif? Parce que dans ce mois béni, Allah Azza wa Jal nous donne toutes les facilités, toutes les conditions sont réunies pour que le croyant puisse avancer spirituellement. Les portes de l'enfer fermées, les portes du paradis sont grandes ouvertes, shaitan qui est enfermé, les actions qui, mashallah, sont multipliées, les a'mal salihah nous apportent énormément de récompenses. Le nafs, il est affaibli parce qu'on ne mange pas, on ne l'obéit pas. Donc le nafs ne nous apporte, ne nous induit pas beaucoup en erreur, beaucoup moins. Bien qu'on ait une période, toutes les conditions, subhanallah, sont réunies pour que le mu'min avance. Est-ce qu'on est en train d'avancer? On est en train de faire du surplace. Et il est très facile de voir est-ce qu'on avance ou non. Il suffit de voir qu'est-ce qu'on a en tête pour les 10 prochains jours. Et par rapport à ça, si on a un objectif à court terme, c'est un mauvais signe. Si à chaque fois que je viens à la salat, que ce soit la salat de dhuhr de le mois de Ramadan, ou la salat de dhuhr au mois de janvier pendant les vacances scolaires, quelle que soit la période où il y a un saf et demi, deux saf, c'est mon objectif est le même, c'est un objectif à long terme, c'est comment est-ce que je me présente devant Allah pour qu'un jour je retourne vers lui, là on est dans le vrai. C'est ça, on va essayer de décortiquer un petit peu. Et donc, pourquoi est-ce que je vous ai dit au début que il n'y a pas un donneur de leçons et des personnes qui sont là pour écouter? Non, non. Parce qu'il y a des fois, on va dire certaines paroles, certaines choses, et j'espère que cela ne vexera personne. On a besoin de faire un état des lieux de notre réelle situation. Nous, musulmans, au XXe siècle, à l'île de la Réunion, avec les infrastructures dont nous possédons, peut-être même comparé avec des musulmans qui sont ailleurs, qui sont à Paris, qui sont en métropole, qui eux n'ont pas tout ce que nous avons, et comment est-ce qu'eux, ils avancent? Quels sont les objectifs qu'ils se fixent? Et nous, avec tout ce que nous avons, alhamdulillah, nos hufaz al-Quran, nos savants, nos centres islamiques, nos... et ainsi de suite, est-ce que nous prenons le bon chemin? Donc il y a des fois, on va peut-être dire faire des remarques, mais franchement, on ne vise personne, on fait un propre bilan, et je suis certainement celui qui a l'intégralité des défauts qui seront mis en avant. Le plus important, c'est de réfléchir à ce qu'on va dire et qu'Allah nous accepte et pardonne nos manquements. Donc les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal, qui nous donne l'opportunité de vivre cette dernière décade du mois de Ramadan. Et qu'Allah Azza wa Jal accepte tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Depuis le premier Ramadan jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a pu faire comme bonne action, qu'Allah Azza wa Jal accepte. Et tous les manquements, les erreurs, les imperfections qu'il y a eu de nos prières, de tarawih, de nos jeûnes, dans nos doigts, de nos actions, de nos a'mal, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous pardonner. Ikhwani fillah, chaque musulman, quel que soit son niveau spirituel, quel que soit son degré de pratique de la religion, il se rapproche d'Allah durant le mois de Ramadan. Ça, c'est sûr et certain, comme on a dit en introduction. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a donné une importance spécifique dans le cœur de chaque croyant pour ce mois de Ramadan. Quand on parle du mois de Ramadan, il y a un éveil immédiat. Chaque personne, même celui qui ne vient jamais à la salah, à la prière, à la masjid, il sait que ça, c'est quelque chose qui est pour moi. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, le mu'min est attaché à ce mois béni. Et voyez, la rahmat d'Allah, comment elle se manifeste également, c'est que même une personne qui ne va pas faire énormément de bonnes actions, il va faire le strict minimum. Juste, il va jeûner. Il va faire ses 5 salats. Cette personne aussi se rapproche d'Allah, Azza wa Jal. Parce que ce mois béni, chaque seconde que tu passes en état de jeûne, en état de somme, c'est un instant qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc les savants disent que ça, c'est l'étendue de la clémence d'Allah durant ce mois. Même celui qui ne va pas faire énormément d'efforts, c'est pas celui qui fait les 20 rakats régulièrement ou les itikaf comme il faut, il fait pas 5 ou 6 rakats au Coran, il fait le strict minimum, lui aussi, d'une certaine façon, il se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Comme on a dit, on doit demander vraiment pardon à Allah Azza wa Jal pour nos manquements. Je ne parle pas des péchés, on doit demander pardon pour nos bonnes actions. On doit demander pardon à Allah Azza wa Jal pour nos bonnes œuvres, parce que dans nos bonnes actions, il y a beaucoup d'imperfections. Et on a vraiment besoin de se remettre en question et de réaliser que notre situation spirituelle n'est pas celle des Sahaba. C'est pas parce que j'ai une barbe de 50 cm, c'est pas parce que je mets le kafni, le thawb, le kandou, comme vous l'appelez, tout le temps, c'est pas parce que j'appartiens à telle famille, c'est pas parce que j'ai un diplôme de hafidh al-Quran, de qari ou de alim, ce que vous voulez. C'est pas parce que j'ai tout ça que je suis forcément un mu'min salih, un homme pieux. C'est pas non plus parce que je pratique de façon assidue la religion que je fais partie des muttaqin. Parce que faire partie des muttaqin, faire partie de ibad salihin, faire partie de ulul albam, faire partie de cette élite, ça démarre, ce sont des qualités qu'on doit réunir à quel niveau? Au niveau du cœur. Quand le prophète alayhi salat wa salam comparé Abu Bakr al-Siddiq au reste des sahaba, il disait aux sahaba, sachez, ô mes compagnons, qu'Abu Bakr ne vous a pas dépassé bi kathratil a'mal. Il n'a pas fait beaucoup plus de bonnes actions que vous, lui, en termes de quantité. Quand il y avait la campagne de Khandaq, si je ne me trompe pas, non, de Tabouk, pardon, la campagne de Tabouk, qui c'est qui a amené plus d'argent? Abu Bakr ou Uthman? Dites-moi. Qui a amené plus d'argent, Irfan? Hazrat Uthman, lui ou non? Parce que le pouvoir financier de Uthman, ça dépasse Abu Bakr. Quand Uthman il amène une partie de ses biens, ça dépasse tout ce qu'Abu Bakr il possède. Uthman était très riche. Mais Abu Bakr il amenait tout ce qu'il avait. Même s'il n'avait pas énormément, mais ça avait plus de valeur. Parce qu'il a fait un sacrifice total. Et c'est ce sacrifice-là qui fait qu'il a dépassé l'ensemble des sahaba. Ce n'est pas pour rien si on dit que « Lawuzina iman ou Abi Bakr bi imani ahli al-ardi la rajjah » Si d'un, on prenait une balance, subhanallah, on mettait d'un côté de la balance le iman d'Abu Bakr. Et de l'autre côté, on met le iman de Umar, Uthman, Ali, tous les sahaba, tabi'in, atba'a tabi'in, tous les croyants, les savants, les musulmans basiques jusqu'au qiyama, le iman d'Abu Bakr. pèserait plus lourd que la foi de toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal, à l'exception des Anbiya. Parce que Abu Bakr avait quelque chose de son cœur. Parce qu'on dit, lakin shay'un waqa'a fi qalbi. Il avait quelque chose de son cœur. C'était ce iman. C'était cet amour pour Allah. C'était cette crainte d'Allah. C'était cette sincérité. C'était cette soumission qui était inégalée et qui restera inégalable jusqu'au Qiyama pour Allah Azza wa Jal. Ikhwani akhawati fillah, on a besoin de creuser un peu au fond de ce cœur. Et creuser sans avoir recours à un scanner ou un IRM ou quels que soient les appareils. Non, on a besoin de creuser à la lumière du Qur'an et de la Sunna pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment de ce cœur. Et à partir de là, on sait si on est dans le droit chemin, est-ce qu'on avance vers notre objectif ou alors on risque de tourner en rond. Et le jour de Qiyamah, on se rend compte qu'on a quasiment rien amené avec nous de notre hisab. Parce que même si j'ai vécu jusqu'à 95 ans, il est possible que chaque jour je faisais plein de bonnes actions, mais chaque soir je vends en danger l'intégralité de ces bonnes actions et je les distribuais pour différentes raisons. Attention! Attention à cette situation d'échec. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il demande aux sahaba, atadrouna mal muflis. Tout le monde connaît ce hadith. Savez-vous qui est le muflis? Le muflis en arabe, c'est celui qui n'a pas d'argent. Sahaba dit au prophète d'Allah, al-muflis, man la dinar lahu wa la dirham lahu. Oh, comme a dit alayhi salatu wassalam. Celui qui n'a ni dirham ni dinar, c'est-à-dire qu'il n'a rien du tout, il n'a pas d'argent. Le prophète dit non. Le muflis, c'est, en ce sens, hein, celui qui dans ce dunya avait fait beaucoup de bonnes actions. Prière, jeûne, hajj, umrah, l'étude du Coran. Il avait fait beaucoup de bonnes actions. Le jour de Qiyama, lorsqu'on voit ces bonnes actions, c'est des quantités énormes, extraordinaires de hasanat. Ça a l'air d'être quelqu'un qui a réussi, oui ou non? Bien sûr, on a l'impression que cet homme-là a réussi. Quand tu es ressuscité à côté de toi, tu vois cet homme qui a autant de bonnes actions. Tu te dis que ya laitani, c'est seulement j'étais comme lui. Mais le prophète m'a dit que malheureusement, cette personne, walakin shatama hada, wa qadafa hada. Il a, akhir le hadith, mais cette personne a insulté telle personne de ce dunya. Il a fait preuve de vol, il a manqué de respect. Il a accusé, il a fait ribat, il a fait bohtan, il a fait du tort aux gens. Il a porté atteinte à l'honneur de cette femme, à l'honneur de cette famille. Il a cassé le cœur des gens. Et le jour de Qiyama, tu ne trompes personne. Ici, tu peux tromper, je peux vous tromper tous. Je peux vous faire croire que je suis quelqu'un de bien. Je peux me réfugier derrière ma barbe, derrière mon titre, derrière mes discours, derrière ma prière, derrière ma lecture de Qur'an. Je peux vous faire croire ce que je veux. Tout le monde ici peut vous faire croire ce qu'il veut. Parce que l'être humain ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas le nom des munafiqins, des hypocrites, tant qu'ils ne se manifestaient pas. Ça veut dire que tu ne sais pas vraiment ce que tu as en toi. Mais le jour de Qiyama, lorsqu'on est présenté devant Allah Azza wa Jal, c'est là que les réalités se dévoilent. Et c'est là qu'il y a des gens qui vont s'illustrer. Des gens qui, entre guillemets, ne payaient pas de mine, on le voyait un petit moun simple. Mais le jour de Qiyam, tu vois que c'est quelqu'un qui était aimé par Allah. Parce que cet homme-là, il n'avait pas une barbe comme toi, lui. Il n'avait pas autant de titres que toi, lui. Il venait à Salah, il faisait le juste minimum. Mais dans son cœur, il était sincère. Il aimait Allah et son messager. Il faisait tout pour garder les liens avec sa famille. Il ne faisait du tort à personne et il était malade. Il souffrait, il avait des problèmes. Tu n'imaginais pas. Et le jour de Qiyama, toutes ces réalités vont apparaître. Et il y a des gens qui vont s'illustrer. Et il y a d'autres personnes qui, de ce dunya, avaient des qualités exceptionnelles sur le plan spirituel. Ils donnaient l'impression d'avoir des qualités. Mais le jour de Qiyama, on va se rendre compte que tout ça, c'était Riya, Suma'a, Shuhra. Pour faire voir, afin que les gens parlent de toi, afin que tu sois connu, que tu aies une réputation. Quand tu mets une publication sur Facebook, il y a 5000 personnes qui cliquent j'aime, tu as 2000 commentaires, tu es cité partout, dans tous les sites, tu es quelqu'un. Aux yeux des gens, oui, tu étais quelqu'un. Mais c'est pas ça qui compte. Qu'est-ce que tu représentes pour Allah Azza wa Jalla? Le prophète sallam décrit les premières personnes à entrer dans le Jahannam. Qui sont les premières personnes à entrer dans le Jahannam? Un alim. Un homme qui a donné dans le chemin d'Allah beaucoup. Qui a donné beaucoup d'argent dans le chemin d'Allah.
un homme qui a donné sa vie pour Allah. Et le jour de Qiyama, ces personnes se présentent devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, confiants dans ses acquis. Ils sont sûrs d'eux. Ils voient les autres à côté d'eux qui ont beaucoup de difficultés, qui n'ont pas de bonnes actions. Et ils savent, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait toute leur vie. Ils sont sûrs d'être dans le droit chemin. Pas dans le droit chemin. Ils sont sûrs d'avoir atteint leur objectif. Et là, Allah Azza wa Jal fait parler ces gens. Allah Rabbul Izzah convoque ces personnes en premier. On ne comprend pas pourquoi eux en premier. Pourquoi pas les pécheurs? Pourquoi pas? Mais c'est Allah qui décide. Allah Azza wa Jal fera reconnaître, on prendra le cas d'une seule personne, le Qari, ou dans certaines sources, celui qui a enseigné la religion. Il dit que, qu'est-ce que je t'ai donné comme bienfait? Tu m'as donné la connaissance ou la maîtrise du Coran, telle chose. Allah Azza wa Jal lui demandera, qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, oh Allah, j'ai propagé, j'ai invité les gens par ce bienfait. Et j'ai fait ça toute ma vie. Pareil pour le riche qui a donné. Il dit, oh Allah, tu m'as donné beaucoup d'argent de ce bien. C'est comme ça. Il y a des gens qui, de ce dunya, seront riches, il y a des gens qui seront pauvres. C'est Allah qui a décidé. Accepte. Mais dans cette acceptation, gère. Gère. Gère ta pauvreté pour que ta pauvreté te rapproche d'Allah. Gère tes fins de mois difficiles pour faire preuve de choukr et regarder ceux qui ont plus de difficultés pour que sa situation te rapproche d'Allah. Gère ta fortune pour que ton argent te rapproche d'Allah. Parce que tout le monde peut se rapprocher d'Allah, quelle que soit la situation. Donc cet homme qui a donné massivement dans le chemin d'Allah, dit oh Allah, tu m'as donné beaucoup de bien, j'ai tout dépensé dans le chemin d'Allah. Allah Azzawajal dira. Et tout le monde est persuadé, hein, dans fi ard al-mahshar, que lui c'est quelqu'un qui a tout donné. Allah Azza wa Jal, il faudra reconnaître cette personne, tu n'as pas donné pour moi. Tu as donné pour que les gens disent de toi, Rajulun Karim, un homme généreux. Et le pire c'est quoi? C'est que dans le hadith il dit, Faqad qil. Et les gens l'ont dit, ton objectif a été atteint toi. Ton objectif à toi, c'était que les gens disent que tu étais pieux. Quel grand savant, quel orateur, quel alim, quel qari, quel homme riche, quel homme généreux. Et les gens, faqad qil, les gens ils ont dit ce que tu voulais entendre, hein. Sache qu'après ta mort, les gens ont dit, et ta famille a été honorée, dit que tel monde est mort, ça c'était un bouzrouk, ça c'était quelqu'un. Mais tu n'as pas fait ça pour moi, toi, tu as fait ça pour les gens. Allah Azza wa Jal demandera aux anges de prendre cette personne, de le traîner et de le jeter dans le Jahannam. Et ce sera parmi les premières personnes à entrer dans le Jahannam. Qu'Allah nous protège. De ce dunya, il donne l'apparence d'un homme pieux, de l'akhira. C'est as-sara'ir. Tout ce qu'il y a dedans qui ressort. Et Allah, il est le maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Akhi, urtifillah, quand tu lis la prière, quand tu lis Al-Fatiha, Al-Sab'ul Mathani, sache que ton din est réuni dans ces sept versets. Sache qu'Allah t'a donné, nous a donné cette Fatiha et qu'il n'y a pas besoin d'être hafiz al-Qur'an pour comprendre la religion. Médite sur ces versets d'Al-Fatiha, tu comprendras tout et tu ne seras jamais égaré par Shaitan. Réalise Maliki Yawmiddin. Quand tu accomplis une action pour faire voir aux gens, réalise que oui, là, dans ce dunya, les gens portent un jugement. J'ai réussi à les bluffer. Mais le jour de Qiyama, c'est Allah qui est le maître du jour de la rétribution. Et devant Allah, je ne le trompe pas. Il n'y a aucune réponse, il n'y a rien à dire. Donc attention, je dois me recentrer. Possible qu'une personne ait vécu 30 années de sa vie, mais c'est 30 années de bonnes œuvres, mais ces 30 années ne lui apportaient que très peu de choses. Mais ce qui est bien dans notre religion, c'est qu'à tout moment, on peut se réveiller. À tout moment, on peut redresser la barre. À tout moment, on peut revenir vers Allah Azza wa Jal. Cet homme qui avait tué 100 personnes, il a obtenu le tawbah d'Allah Azza wa Jal. Oui ou non? Il a obtenu le pardon d'Allah Azza wa Jal. Il s'est réveillé à quelques jours avant la mort. Et Allah l'a accepté. Réveil du cœur. Qu'est-ce qui fait qu'il revient vers Allah? C'est que dans son cœur, il réalise qu'il y a un problème. Il réalise que ça va pas. Je suis pas le droit chemin. Certes, lui, il avait fait quelque chose d'horrible. Mais quelle que soit par analogie, par qiyas, quelle que soit la nature de nos péchés, à un moment donné, il est temps de se réveiller spirituellement, de se poser les bonnes questions. Est-ce que dedans, il y a les qualités? Arrête de regarder dehors. Arrête, oublie le ramadan. J'ai presque envie de dire sans être blasphématoire, oublie un coup le ramadan, oublie-le. Oublie qu'il reste 10 jours. Pense à ta vie, pense à ce que tu es, pense à ce que tu à ce que tu représentes pour Allah Azza wa Jal. Pense à ce qu'Allah attend de toi. Et Allah n'attend pas de toi un cumul de gestuels. Allah n'attend pas de toi une attitude vahide de l'extérieur. Allah attend de toi un cœur pur. Illa man atallaha biqalbin. Biqalbin. Salim. Un cœur pur. Un cœur rempli de bonnes choses. Et à partir de ce cœur, les bonnes actions vont suivre. Là, tu es dans le droit chemin. Donc, réalisons que nous sommes très loin du Ramadan des pieux prédécesseurs et que nous avons besoin de réfléchir, de redresser la barre, de prendre parfois un nouveau départ. Car, on doit retenir, mes chers frères, avant de parler de ces trois catégories, dans cette dernière des cadres, on doit revenir un petit peu, parce que il faut pas croire qu'on décourage les gens à faire de bonnes actions, on regarde que ton cœur. Non, fais les bonnes actions et fais tout ce que tu peux. Dépasse-toi dans les bonnes œuvres et on va expliquer que quand tu fais ces bonnes œuvres maintenant, quelles sont les qualités intérieures à injecter pour que ces bonnes actions aient une portée spirituelle correcte et que ça ne reste pas un cumul de gestuels. Une personne qui fait 20 rakat, qui officie 20 rakat et qui ne fait aucune faute, qu'est-ce que tu as envie de lui dire quand il sort de la masjid? Shabash. Vous savez, ça veut dire quoi, Shabash? Mubarak. Qui est passé dit Shabash, hein, professeur d'une sabre. Peut-être je déforme. Félicitations. 20 rakat. Zéro faute. 4 premières rakat, tu as lu comme Mahir al-Mu'aqili. Ensuite, tu es passé en seconde, en mode Soudaise. Ensuite, en mode Thubayti. Ensuite, en mode, qui ça encore? Mu'aqili déjà dit. En mode Shurain. Et enfin, tu as terminé en Salah al-Boudir. Franchement, toi, tu es un top. Aoulaï Mataouchi Moussalamaka Madina. Franchement, tu as ta place. Al-Ujbu bin Nefs, tu l'as détruit, tu as cassé cette personne, tu l'as détruit spirituellement parce qu'il va ressentir une certaine fierté, contentement. Ne détruis pas son cœur, Yahri. C'est tellement dur d'avoir Qalbun Salim, c'est tellement dur de rester imperméable à tout ce qui est sale, c'est tellement dur de laver ce cœur de la rouille des péchés. Ne remplis pas, ne donne pas l'occasion pour que ce cœur se remplisse. Donc quelqu'un qui fait quelque chose de magnifique, ce n'est pas suffisant. On a besoin de voir l'intérieur, ce que c'était pour Allah ou non. Donc, faisons ces bonnes œuvres. Celui qui peut prier 20 rakat, qu'il le fasse. On ne va pas dire ne fais pas 20 rakat parce que c'est un motif d'ostentation. Ce serait là une attitude négative. On a besoin de pousser la communauté en avant. Fais des bonnes œuvres. Tu peux faire, tu as le potentiel, fais-le. Tu as envie de faire khirat, yahi, fais-le. Je ne vais pas te dire ne lis pas devant les gens parce que tu ne connais pas le fond de ton cœur. Non, fais-le. Je ne te dis pas, fais pas le dhikr, lis pas le Coran. Non, fais. Mais rectifie ton intention, paramètre ton cœur. Fais en sorte que ce que les qualités qu'on va citer après les a'mal, que ces qualités y sont. Allez, on arrête de tourner en rond, on avance, inshallah. Le plus important, dans cette dernière décale, on doit s'appliquer encore plus dans les actions qui sont devenues notre quotidien. Depuis 20 jours, on fait pas mal de bonnes œuvres qu'on a citées. Mais on a besoin de les faire encore et encore, pas forcément plus, mais on les fait avec plus de sincérité, plus de concentration, plus de dévotion et surtout donner un sens à ces bonnes actions. Fais décoller ta prière, fais décoller ton dhikrullah, fais enfin décoller ta lecture du Coran, injecte les qualités intérieures pour que ces actions prennent leur départ et ces actions atteignent leurs objectifs. Reste ferme, ya akhi, ya ukhti. Reste ferme dans tes 5 salats en jamaat. On ne dit pas des choses extraordinaires là. Reste ferme de tes 5 prières en jamaat, en congrégation, pour les messieurs, pour les dames à la maison, comme on peut, comme elles peuvent, avec conviction de soumission du corps et de l'esprit. Que quand tu pries là, tu es soumis à Allah, tu appartiens à Allah. Ton corps appartient à Allah, tu ne bouges pas un petit doigt. Parce que tu es devant Allah et ton cœur, tu ne le laisses pas vagabonder, ne pense à rien si ce n'est que je suis devant mon Seigneur et réalise que ça, c'est mon rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Ça, c'est mon rendez-vous quotidien obligatoire avec Allah qui fait de moi un vrai croyant. Car le prophète m'a dit, la différence, faslun, entre le croyant et le mécréant, c'est la prière. Tu as la prière de ta vie 5 fois par jour, yaoumiyan, tous les jours. Pas la prière du Ramadan, tous les jours, ça fait de toi un croyant. Réalise ça quand tu pries. Sois assidu dans le tahajjud, dans la prière de la nuit, avec conviction qu'Allah, durant le dernier tiers de la nuit, il est le plus proche des êtres humains. Kama yaliqu bihi azza wa jal. Et Allah écoute tes demandes. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. y a-t-il des gens qui demandent pardon, que je leur accorde mon pardon. Sache, ya akhi, ya ukhti, tu te réveilles depuis 20 jours, 19 ou 20 jours, jusqu'à maintenant où tu fais ta hajjud, tu fais 2 rakats, tu fais 4, tu fais 6, 8, 12 en fonction du temps, de ta force, de ta capacité. Mais ne le fais pas de façon mécanique, excusez-moi l'expression, ne le fais pas de façon machinale, comme si tu le fais parce que de Ramadan il faut faire ta hajjud. Non, quand tu le fais, dis-toi de ton cœur, que ça c'est mon rendez-vous secret, ça c'est mon rendez-vous privilégié avec Allah Azza wa Jal, ce qui fait de moi un croyant qui se distingue des autres. Dans ce rendez-vous spécial avec Allah, où il n'y a personne qui me voit, je peux atteindre un grade que personne ne peut atteindre. Car le prophète va dire que le jour de Qiyamah, parmi les gens qui seront sous l'ombre, je rends Allah Azza wa Jalla, yawma la dhilla illa dhillu, rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat 'ayna, un homme qui pense à Allah seul. Et en commentaire, les muhaddithines disent, ça veut dire quoi, seul? De l'obscurité de la nuit. Et idéalement, dans le dernier tiers de la nuit, où Allah est le plus proche de sa création. Et là, il pense à Allah. Il remercie Allah qui lui donne la possibilité de se tenir devant lui, et il pleure pour ses péchés, il pense au jour où il retournera auprès d'Allah Azza wa Jal, et là il y a des larmes qui coulent. Si tu es arrivé à cet état spirituel, sache que tu es l'élu d'Allah. Donc quand tu fais le tahajjud, l'objectif c'est pas de faire 12 rakats, tu peux faire quelque chose d'énorme avec 2 rakats. Pense que tu es dans un moment privilégié avec Allah et tu as besoin, et comme il fait noir, pense que un jour je vais être seul devant Allah, comme là je suis seul, il n'y a personne qui m'entoure. Pense à tout ça, dis-toi bien que là je suis devant mon Seigneur. Développe cette spiritualité et on verra de cette façon les actions vont décoller. Continue à faire les autres prières nawafil, et je pense à la salat de Ishraq par exemple, et les sunnat muakkada, ou réel muakkada avant, après namaz, ainsi de suite, parce que ces salat là qui ne sont pas obligatoires, ça va te rapprocher d'Allah, et ces salat vont compenser les manquements qu'il y a dans les namaz qui sont faraz. Et certains de ces salat, on pense à la salat d'Ishraq, ça m'apportera la bénédiction, la baraka pour toute la journée. Commerçants se plaignent, il n'y a pas de vente, c'est difficile, d'accord, prie le Ishraq tout le matin. Quand tu as fini la salat de Fajr, quitte pas la mosquée, reste là, fais le dhikrullah, lis le Coran jusqu'au shuruq, fais 2 rakat ou 4 rakat, et tu vas voir la baraka qu'Allah Azza wa Jal va t'accorder dans la journée. Akhi ukhti fillah, aborde la salat de Tarawih avec spiritualité et prends conscience que tout le temps que tu restes devant Allah Azza wa Jal, pendant une heure tu es debout, ou alors 1h30, c'est un grand honneur, ça c'est un izza, ça c'est sharaf lil mu'min, c'est un grand honneur qu'Allah t'accorde de te tenir debout devant lui et d'avoir mal, d'avoir les genoux qui font mal, d'avoir mal au dos, d'avoir mal aux reins, d'être fatigué. Tu bailles mais tu restes concentré, tu restes debout, tu n'abandonnes pas. Ça c'est un grand honneur, ça c'est à notre niveau peut-être le seul sacrifice sur mon corps que je peux faire pour Allah, avec le hajj peut-être, quand tu vas au hajj c'est dur, il fait chaud et ainsi de suite, mais là quand tu te tiens 1h30 debout, c'est un grand honneur ça qu'Allah te donne. Parce qu'en temps normal, qui sait qui fait 1h30 namaz, qui sait, peut-être certains le font, mais pas tout le monde peut le faire. Mais là c'est l'occasion de le faire. Dis-toi que quand tu as mal, tu es fatigué, ça, oh Allah, hadha li wajhik, ça c'est pour toi ya Allah. Je n'écoute, je regarde pas l'imam, il lit vite, il lit doucement, il lit comme un tel. Je fais ça, je me tiens debout pour Allah, et quand je me tiens debout pour Allah, et quand je suis un peu en souffrance, je suis fatigué, je suis conscient qu'Allah m'observe. Allah voit mon état spirituel de cet instant. Et si dedans, c'est animé par l'amour pour Allah, Allah perçoit cet amour, Allah voit cet amour. Et Allah me récompense en fonction de mon cœur, de mon intention et de mon sacrifice. Et rappelle-toi que celui qui reste debout derrière l'imam, hatta yam sarif, jusqu'à la fin, Allah lui accorde la récompense de toute la nuit passée en salat, en tahajjud. Chose que peu de gens peuvent faire. Qui c'est qui peut, en rentrant à la maison à 22h, 22h30, tu restes en qiyam al-layl jusqu'à suhur. Peut-être parmi vous, il y en a qui font. Mais c'est pas évident. Mais si tu fais que tu restes avec l'imam jusqu'à la fin, Allah t'accorde cette récompense. Donc quand tu as mal, quand tu as envie de rentrer, tu es fatigué, tu dis que non, je fais ça pour Allah, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, et je fais ça. Et vous savez, le fait de mettre en avant la récompense pour rester ferme, c'est un thème qu'on va utiliser dans un instant. C'est un des points importants qu'on doit avoir de le cœur. Ça s'appelle ihtisab. Ihtisab al-ajr 'indallah. Tu accomplis l'action et tu as conviction, yakin sur al-wa'd, ce qui est promis et tu dis que Allah va me donner telle chose, Allah va me donner tel grade, donc je le fais, oh Allah, par amour pour toi, parce que tu es généreux. Ça te motive, ça te permet de garder la concentration jusqu'au bout. Akhirti fillah, complète les 10 derniers jours de Ramadan de jeûne avec, de façon consciencieuse, soumission totale à Allah. N'oublie jamais que depuis 20 jours, quand tu dis Allahumma inni asumu ghadan lak, tu t'es engagé avec Allah. Tu fais une promesse. Oh Allah, je jeûne aujourd'hui. Cette promesse, tu vas la tenir jusqu'au bout, jusqu'à la rupture du jeûne. Sache que tu as fait un engagement avec Allah Azza wa Jal, un engagement de soumission. Ben, calque cet engagement de soumission périodique sur un engagement de soumission de toute ta vie pour Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le jeûneur qui est intelligent. Akhi ukhti fillah, fais beaucoup de doigts durant ce mois de Ramadan, dès les tiens de la nuit, au moment de rompre le jeûne, multiplie les doigts. C'est pas le moment de flancher là. C'est vrai qu'au début du Ramadan, des premiers iftars, tu fais doigt, il donne paquet, il y a plein de choses qui viennent en tête. Mais après, à un moment donné, tu fais doigt. La bouche est la seconde ouverte, tu penses. Tu fais doigt, tu regardes les samoussas, tu regardes, tu vas commencer par, je vais faire un 4-4-2. Deux chambres de Alupoli, deux katles, et on finit par un samoussa. Tu penses même plus au doigt. C'est comme ça. Parce que nous restons des êtres humains. Le prophète Hassan me dit qu'il y a deux choses que l'homme aime. C'est, parmi ces choses qu'il aime, c'est rompre le jeûne. C'est comme ça, on est fait comme ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les jours défilent, il y a moins de dévotion, il y a moins de concentration. C'est le premier jour, tu venais, oui, premier rang, tu étais là avec Vouzou, le beau kafni, le parfum spécial que tu as acheté pour lâcher Makka, tu y es à fond. Le 20e Ramadan, tu arrives, tu traînes, ça va, là, t'es là, Moussab, là, il y est là. T'es pas changé, un peu, mettre un peu ben jeûne. Tu y viens comme ça, et pas de concentration. Ça commence, tu penses déjà à d'autres choses. Nous sommes des êtres humains. Ce sont là nos faiblesses, mais on a besoin de recadrer tout ça. On a besoin de se remotiver. Donc, complète. Non, comme il a dit, multiplie les doigts. Et quel doigt? Quel rapport avec ce qu'on vient de dire en termes de manque de motivation? À chaque rupture du jeûne, fais demander, Ya Allah, donne-moi la concentration. Ya Allah, donne-moi la dévotion. Ya Allah, accepte-moi que cette année, tu m'acceptes. Que ce Ramadan, ce soit le meilleur de ma vie. Ya Allah, nos actions ne sont pas exceptionnelles. Ya Allah, il y a beaucoup de manquants. Il y a beaucoup de péchés encore. Mais c'est ce que je peux faire au mieux. Voilà tout ce que j'ai pu faire durant ce mois. Voilà tout ce que je suis capable de faire. Ya Allah, accepte et pardonne mes erreurs parce que tu es Rahman et Rahim et donne-moi la fermeté et istiqama. Tout ça, il faut demander. Qu'on demande pardon à Allah avec, à propos de nos péchés, sur nos péchés, avec remords, avec regret, avec l'intention ferme de ne plus recommencer. Il y a un hadith qui est magnifique lorsque Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il nous rapporte que le Prophète a dit qu'Allah Azza wa Jal a dit. Ça s'appelle un hadith Qudsi. Et Ibn Adam, ô fils de Adam, innaka ma da'outani wa rajoutani, ghafartu laka ma'a ma kana fik. Il dit, ô fils de Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, ar-raja, tu as l'espoir en ton Seigneur, je te pardonnerai quoi que tu aies fait. Wala ubali. Et la suite du hadith m'a dit en français, ô fils de Adam, si tes péchés atteignaient les nuages des cieux et qu'ensuite tu sollicitais mon pardon, je te l'accorderai, wala ubali. Si tu reviens vers moi sincèrement, même si tu as fait tellement de gounas, de péchés, que ça peut remplir l'espace entre le terre et la terre et le ciel, mais si tu es sincère de ton retour vers moi, ya ibadi, je t'accorde mon pardon. On doit penser à tout ça qu'on fait doua et quand on demande pardon pour nos péchés. Akhi ukhti fillah, sois haris, sois avide de mon, pas avide d'argent, au contraire, avide de sadaqa. Chaque fois qu'il y a une possibilité de donner un pauvre pour un projet dans une masjid, donne. Sache que c'est une porte qu'Allah t'a ouverte. Et quand Allah t'ouvre une porte, ne ferme pas cette porte. Ne ferme jamais une porte qu'Allah t'a ouverte. Ne dis pas que non, lui, tout le temps, il vient voir moi. Lui, c'est tous les ans à sec, ça. Ne ferme pas, Yahri. C'est peut-être ce 1 euro que tu as donné qui te protège de l'enfer. Le prophète me dit, « Ittaqunnar. » Voilà où protège-toi de l'enfer, même si c'est par un morceau de date, pas une date, tu donnes la moitié d'une date à quelqu'un, tu dis, ça c'est pas Allah. Peut-être que là tu étais sincère, peut-être que c'est là qu'Allah t'a accepté. Vous savez, dans le Jannah, Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah, qulu amin. Qu'Allah nous fasse parmi les gens du paradis. Lorsque tout sera terminé, et que les gens du paradis seront dans le paradis, et que viendra le jour du Jumu'ah, selon certaines versions, où Allah nous invitera à venir le contempler, à venir le rencontrer, à venir discuter avec lui. Comment ça s'appelle ça? Subhanallah, qui connaît? Yawmul Mazid, Et ça, c'est le summum, c'est ce qu'on peut rêver de mieux. Il dit que lorsque les gens auront vu Allah Azza wa Jal, ensuite les gens des Jannah, de tous les degrés, vont se retrouver. Et moi, j'aimerais être avec le papa de Mouna Muhammad, être avec des gens pieux comme ça, j'aimerais être à côté d'eux. Mais la barbe du sable ne sera pas blanc. 33 ans, en forme. J'espère que tu me diras, Moïsab, on a bien causé, on n'a pas le temps. J'ai des gens qui m'attendent. J'ai d'autres choses qui m'attendent. J'ai mes bienfaits. J'ai mes palais, mes qusur du Jannah qui m'attendent. Allahumma ja'alna minhum, qu'Allah nous fasse connaître ces moments. Il dit que les gens de différents niveaux du paradis vont se retrouver et ils vont discuter. Et vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire? Entre autres, dans les hadiths les cités, ils vont se rappeler, est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'Allah nous a pardonné? Oui. Et là, Allah, il met cette connaissance dans ton cœur. Tu sais exactement quand tu as été accepté par Allah. C'est quoi l'action que tu as fait qui t'a permis de décoller spirituellement? Et là, tu vas dire que c'était le 25e Ramadan 2016. Là, je me suis levé et c'était une nuit impaire, c'était Laylatul Qadr. Je suis resté dans la masjid, j'ai pleuré presque toute la nuit. Comment j'ai fait, je ne sais pas. Mais j'ai pensé à tous mes péchés, j'ai pleuré. Ensuite, j'ai envoyé un texto à ma maman et à mon papa, j'ai dit « Pardon ». Pour tous les manquements, pour le fils que je n'ai pas pu être jusqu'à maintenant, parce que j'étais pris, je suis désolé. Et j'ai réparé tout ce qu'il y avait comme problème avec les gens, et j'ai fait énormément de bonnes intentions. Et les gens du Jannah vont se rappeler à quel moment exact Allah Azza wa Jal leur a accordé son pardon. Et si c'était aujourd'hui, si c'était aujourd'hui qu'on a porté un changement de notre vie, et non pas par beaucoup de bonnes actions, mais par une prise de conscience de notre statut de ibadullah, de serviteur d'Allah Azza wa Jal. Donc, akhifillah, quand Allah t'ouvre une porte, ne la referme jamais. Sache que quand tu donnes le l'aumône, tu le fais pour Allah. Sache que quand tu donnes le l'aumône dans le mois de Ramadan, tu fais ça parce que le prophète le faisait beaucoup. Dans le mois de Ramadan, le prophète n'a jamais été aussi généreux que durant ce mois béni. N'importe qui tu rencontres, donne, qui te demande quelque chose. Tu as 50 centimes, akhi, donne. Tu as ton plat de gâteau, tu allais faire l'iftar. Quelqu'un te voit dans la rue, tu n'as pas quelque chose pour moi. Donne ton plat de gâteau. Même s'il faut que tu casses carême avec une date avec ton ami, donne pour Allah. Tu te dis que le prophète, il était comme un vent qui apportait plein de bonnes choses. Akhi, c'est le moment de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Quand tu donnes, sache que tu le fais pour une créature d'Allah. Allah l'a mis sur ton chemin, comme on l'a dit. Allah, il t'a choisi pour faire quelque chose de bien. C'est peut-être la meilleure des choses que tu vas faire. Et sache surtout, tu n'es pas un bienfaiteur. C'est lui le bienfaiteur. C'est le pauvre qui te demande, c'est lui le bienfaiteur. Parce que toi, tu lui donnes 10 euros. Mais 10 euros, il va faire quoi avec? Il va s'acheter quelque chose à manger, il va donner à ses enfants. Ça s'arrête à là. Tu ne changes pas sa vie avec 10 euros. Mais peut-être c'est ta vie qui change avec ces 10 euros. Parce que tu te protèges du Jahannam pour l'éternité avec ce geste. Donc, quand tu lui donnes les pieux prédécesseurs, il remercie les pauvres. Ajib. Ça, c'est une autre vision des choses. Ça, c'est la vision que l'islam nous donne. Quelqu'un vient, il te demande, tu donnes les savants, les pieux prédécesseurs, il remercie Allah de leur avoir créé cette situation. Il remercie les gens, et j'ai pas le nom, mais il y a des pieux prédécesseurs, il dit que ces gens-là, yahmilouna, ils portent nos bonnes actions et ils les amènent dans notre livret le jour de Qiyam. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qui est le plus grand bienfaiteur de ce dunya en termes de créature? Tu lui donnes quelque chose, c'est des montagnes de hasanat, il te garde tout ça avec lui. Jour de Qiyam, il vient, il pose ton livret de bonne action, de ton mizan, et ton mizan pèse en ta faveur. N'est-ce pas là un bienfaiteur? C'est de cette façon. Ça, c'est ce qu'on appelle une vision islamique des choses. Différent en celui qui fait un chèque, qui donne. Et voilà ihtisab. Voilà muraqabatullah. Peut-être ikhlas, ça on ne juge pas. Il ne pense pas à la portée. Il ne pense pas au mizan au moment où il donne. Il ne pense pas à la remise et livrée d'action. Tout ça, ce sont des manquements de les actions. Si tu ne penses pas à toutes ces qualités intérieures, l'action est faite. Mais elle ne décolle pas. Et elle ne perdure pas. Et tu risques de la perdre aussi par d'autres choses. Et ça ne te permet pas d'avancer. On a besoin de développer les qualités intérieures qu'on est en train de répéter depuis le début. Donc quand tu penses que cet homme-là, il va m'apporter mes récompenses dans le mizan, tu as une autre vision des a'mal al-saliha. Et dis-toi bien que quand tu donnes, tu le fais pour ta propre correction. Tu es en train d'éduquer ton âme. Parce que وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. L'homme aime, c'est bien. Surtout quand il a gagné à la sueur de son front. Il ne veut pas donner. C'est moi qui ouvre le magasin à 7h30 le matin. Depuis 35 ans, je n'ai jamais pris de congé. Je travaille. Les fins du mois sont dures. Je fais. Lui, le bouc, il est assis là. Il y a 6 ans en face. Le mur masjid, les gardes de monde passé. Ça donne à lui. Non. Ya akhi, ça, ton cœur est attaché à tes biens. Tu ne donnes pas parce qu'il s'appelle un tel. Tu le donnes pour Allah et tu le fais. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. Ça te purifie, ça enlève l'avarice, toutes les saletés qu'il y a dans le cœur. Ça fait partie des amal qui t'amènent vers une propre correction de ce qu'il y a. Donne un sens à tes actions, donne un sens à ton tarawih, donne un sens à ta lecture du Coran. Fais, lis le Coran, multiplie les katam s'il le faut, mais avec intention de lire, de compréhension, de méditer sur le sens des versets à travers les tafsirs qui existent en français, et l'envie de se rapprocher d'Allah et de mettre en pratique. Donne un sens à ton dhikrullah. Quand tu dis subhanallah, pense à la pureté de ton Seigneur. Quand tu dis alhamdulillah, ne dis pas alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Vaut mieux que tu dises un alhamdulillah que 150. Mais tu ressens que tu es shakir lillah. Remercie Allah pour iman, pour siha, pour afia, pour la famille, pour les enfants, pour le travail que tu as, pour tout. Alhamdulillah. Quand tu dis Allahu Akbar, il n'y a même pas besoin que je vous dise à quoi il faut penser. La grandeur d'Allah, la beauté d'Allah, la suprématie de notre Seigneur. Quand tu dis Astaghfirullah, c'est comme si tu as envie de te plier en quatre devant Allah. Pardon, ya Allah. Tauba, ya Allah. Pour toutes ces erreurs, pour tous ces péchés, ressens Astaghfirullah. Ne deviens pas ce musulman qui produit des bonnes actions de façon, en quantité, mais celui qui l'accomplit avec ikhlas, avec sincérité, avec hub, avec amour pour Allah. Et chacune de ces actions doit être accomplie en ressentant la soumission à Allah, en cherchant son contentement, sa proximité, avec espoir que c'est peut-être cette action qui te permet d'être délivré du feu de l'enfer. Et chacune de ces actions qu'on est en train de cumuler, qu'on a citées, ça va augmenter ton capital quoi ? Ton capital taqwa. Parce que la'allakum tattaqoun, le jeûne te permet d'atteindre la piété, parce qu'entre autres dans le ramadan tu fais plein de bonnes actions, et chaque bonne action c'est une pierre que tu apportes à ton édifice taqwa. Et à la fin du mois de ramadan tu as un niveau de taqwa qui dépasse ce que tu as pu faire durant les 11 autres mois de l'année, et c'est ce qui va rester. Parce que le lendemain de Eid, qui c'est qui fait ta la vie? Quand est-ce que ta la vie? C'est bidat, c'est fini. Le lendemain de Eid, ces actions n'existent plus. Mais ce qui reste, c'est ce qu'il y a de ton cœur. Qu'est-ce que tu as pu cumuler comme piété, comme taqwa? Et c'est ça qui va te permettre de vivre chaque jour pour Allah. Chaque situation de ta vie pour Allah. Et c'est ça qui va permettre à un jeune qui, 4 samedis, n'est pas parti en boîte de nuit. 4 samedis, il n'a pas bu une goutte d'alcool. 4 samedis, il n'a pas fréquenté sa copine. Il n'a pas fait l'adultère. Ben, c'est ce capital taqwa qui lui permettra de rester ferme de ce droit chemin. C'est ce capital taqwa qui te permettra de ne plus aller à la banque pour signer un contrat avec intérêt. C'est ce capital taqwa qui te permettra de ne plus faire le ribat, le botan, la médisance, la calomnie, de ne plus jurer les gens, de ne plus avoir de mauvaises pensées, de ne plus être raciste, de ne plus avoir de propos qui blessent les gens, de ne plus désobéir à tes parents. Il a rêvé d'alik. C'est ce taqwa qui, parce que tout démarre du cœur, c'est ça qui te permet de faire des bonnes actions, mais c'est ça également qui te permet de t'éloigner définitivement de ce qui est haram. Dans Riyad al-Salihin, dans l'introduction, il y a un bab, je vous conseille de le lire, ça a été traduit en français. Il y a un commentaire qui est tout simplement magnifique de Riyad al-Salihin. On t'explique tout ce que la taqwa t'apporte, mais je ne pense pas qu'on ait le temps de faire. J'ai mis mon chronomètre, on a 1h15 et il reste 30 minutes. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite, juste les versets. Quand dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Oh vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Arrête n'importe quoi. Arrête cause à toi à travers. Arrête de ribat. Arrête parle au-dessus du monde. Arrête occupe les gens. Arrête de faire monsieur un tel et un tel le sujet de ta conversation. Arrête un peu les dimanches, le biryani familial, on va critiquer Moussa le Fibayan, il a dit n'importe quoi au tel. Arrête. Yakfi. Le prophète garantit le paradis, celui qui se contrôle, qui se préserve de l'adultère, mais celui qui contrôle sa langue. Et le prophète dit qu'il y a des gens qui seront précipités dans les abysses de l'enfer parce que leur langue ont dit des choses qui étaient inacceptables. Yahri, qu'on khayran ou dis quelque chose de bien ou alors tais-toi. Qu'on apprenne à fermer sa bouche. Excusez-moi, c'est pas méchant de le dire, mais à contrôler notre parole. Et quand on sent que ce qu'on va dire, ce n'est pas intéressant spirituellement, si tu as un doute, dans ce cas, vaut mieux ne pas dire, ne pas parler. Contrôle ta langue. Fais ce niat, déjà, tu te préserves de beaucoup de choses. Arrête avec les cercles d'amis, que ce soit là au fond, ne parle pas d'ici, hein. Dans toutes les masjids, il y a ça, le petit cercle de panchat groupe. Dans toutes les masjids, il y a ces icônes sur le monde. Yahri, tu es en état de jeûne. Tu as besoin de parler sur les gens. Tu as besoin de dire qu'un tel a quitté son madame, un tel, oui, il a vu Ali avec son maîtresse, il a revenu. Ça, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Là, ce qu'ils disent de bonnes choses, qu'ils se taisent. Mais il y a un autre hadith. Min husni islamil mar'i, tarkuhu ma la ya'ni. Malak, shughul yahri. Malak, dakhla fi. Ça ne te concerne pas. C'est pas ton problème. Parle pas sur les gens. Parle sur ce qui t'intéresse, sur ce qui peut changer ton avenir, tes enfants, ta femme, tes parents. Basse. Donc tout ça. Waqulu qawlan sadida. Et invite vers Allah et dis des paroles. Là, c'est les péchés. Mais après, c'est les paroles positives. Et accepte, dans ce tafsir, c'est un manque de respect de parler aussi rapidement de ce verset. De ce verset, qu'est-ce qu'il y a? Ben, si tu fais preuve de piété et tu contrôles tes paroles, yuslih lakum a'malakum. Allah t'accepte pour faire de bonnes actions. Allah t'accepte pour demander tauba. Allah t'accepte pour accomplir des bonnes œuvres qui vont effacer les péchés. Vous savez que les actions, les bonnes actions effacent les péchés. Qui c'est qui te permet de lever les mains, de demander tauba en pleurant? Ce jeune, cette personne de l'Jannah qui a dit le 25e Ramadan 2016, j'ai pleuré toute la nuit, comment? Je ne sais pas. Mais c'est sorti comme ça. Qui lui a permis de demander pardon? Qui a fait que son cœur s'est soumis à Allah comme il n'a jamais été? C'est Allah qui t'a donné, dites-moi le mot, sinon je m'arrête. Allah qui lui a donné tawfiq. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allah lui a donné tawfiq pour inkisarul qalb, pour se soumettre à lui. Ben, quand tu fais preuve de piété, tu contrôles tes paroles. Yuslih lakum a'malakum. Les mufassirs disent que la traduction c'est afin qu'il améliore vos actions. Les mufassirs disent que comment Allah améliore tes actions, c'est Allah t'accepte de donner tawfiq pour faire de bonnes œuvres. Et ensuite, Allah te donne la possibilité de lever les mains, demander pardon avec sincérité et de faire des bonnes œuvres qui vont effacer les péchés. Il y a plein d'autres versets qui parlent de la taqwa. Et Allah t'ouvre toutes les portes. Allah est avec toi. Dans le verset, on va un peu vite, on mélange un petit peu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana. Oh vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner. En parenthèse, vous me dites, discerner entre le bien et le mal. Le discernement. Tu deviens un musulman éclairé. Tu ne tournes plus en rond. Tu avances vers ton objectif. Ta barbe blanchit, mais ta barbe blanchit dans le droit chemin. C'est pas ta barbe blanchit parce que tu es en train de tourner en rond. Tu peux user un pneu ou un moteur en faisant un parcours limité, tu n'avances pas. Mais avec une voiture de moins bonne qualité, tu peux aller plus loin si tu vas sur le sirat al-mustaqim, tu vas tout droit. Yuslih lakum yaj'al lakum furqana. Allah te donne la possibilité de discerner entre le bien et le mal. Et cette taqwa, elle démarre d'où? Tout démarre du cœur, une soumission totale à Allah, une muraqabatullah, une pensée permanente d'Allah, et on va développer ça si on a un peu de temps. Et c'est ce qui nous fait défaut à notre époque. Qu'est-ce qui fait que des gens retournent vers le haram après le shawwal, après le Eid? C'est parce qu'il n'y a pas de discernement entre le bien et le mal. Quand tout le monde rentre dans la mosquée, je rentre. Mais quand tout le monde sort, je sors. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est pas normal que le masjid Fajr, je parle de la masjid de Saint-Denis, que Nour al-Islam, il n'y a plus de place, c'est rempli. Je ne peux pas vous dire il y a combien de centaines de personnes. Mais que après le mois de Ramadan, dimanche, Fajr, tu as trois rangs. Ça, c'est pas normal. C'est que les gens, ils n'ont pas le furqan. Ils n'ont pas la possibilité de discerner qu'est-ce qui est bon pour eux et qu'est-ce qui est mauvais. Et quand tu fais preuve de piété, Allah t'accorde le discernement. Dans ce mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs en islam, et précisément dans cette dernière décade, on a trois catégories de jeûneurs. On a un extrême, et ça, on ne va pas en parler. C'est celui qui ne s'intéresse pas du tout à la religion. Il ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui gardent la barbe. Pourquoi il y a des femmes qui se voilent? Moi-même, il y a des gens qui m'ont déjà parlé de la femme qui porte le châle. Ils disent c'est comme des momies. Pourquoi elles se s'habillent comme des momies marchent dans la rue? Ça, cette parole, ça peut être kalimatul kufr. Ça, c'est istihza ou biddin. Je de qiyama, peut-être qu'Allah te demandera pourquoi est-ce que tu t'es moqué d'un homme qui porte la barbe. Pourquoi est-ce que tu t'es moqué d'une femme qui se couvre les cheveux par crainte d'Allah? Ne viens pas dire que dans la société, ça ne correspond plus aux valeurs. Tu n'as rien à dire. Ne viens pas philosopher, s'il te plaît. Ne parle pas. Tu n'arrives pas à mettre, tu n'arrives pas à te couvrir les cheveux. Tu t'en remets à Allah, mais ne parle pas en plus. Ne parle pas en plus parce que tu parles du dîn d'Allah. Donc ça c'est l'extrême, les gens qui sont avec vous, mais ils sont presque vos ennemis. Ils prient à côté de vous, mais ils ne comprennent pas pourquoi tu viens tout le temps. Pourquoi tu es aussi extrémiste que ça? Pourquoi et ainsi de suite? Et on a tous rencontré quelqu'un comme ça. On a tous rencontré quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi est-ce que des gens pratiquent avec assiduité la religion. Et ils attendent le Eid. Pourquoi? C'est la fête et, c'est un... et puis on revient à la vie normale, on arrête avec tout ça. Quand on parle de ces gens-là, et on en connaît presque tous un, et peut-être même de notre famille, et Allah nous pardonne, et la seule chose qu'on peut faire, on doit avoir le cœur lourd pour eux. On ne doit pas les considérer comme des ennemis. Ça, c'est des munafiques. Parle pas avec lui, c'est un hypocrite. Intérieurement, il te dénonce, lui, là-bas. Non, ton cœur doit saigner pour cette personne. Tu dois te dire qu'il est en train de se faire du tort à lui-même. Et fais doigt pour lui. Fais doigt. Qu'Allah lui accorde la guider. Qu'avant de mourir, qu'il ne faut pas qu'il meure comme ça. Il ne faut pas qu'il meure comme ça. Surtout si c'est un membre de ta famille, si c'est un grand-père à toi, si c'est quelqu'un qui a eu plein de choses de ce dunya. Et vous savez, il y a des fois quand on réussit tout, on se sent intouchable. On sent qu'on est au-dessus des autres. Et que moi, je sais, moi, tout ça, c'est une pièce de temps ce que vous faites. Moi, j'ai réussi, j'ai fait telle chose, ainsi de suite. On doit demander droit à qu'Allah l'accorde la guider et que surtout qu'il ne meure pas comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième catégorie. Ceux qui passent une majeure partie de l'année et donc de leur vie, dans l'insouciance spirituelle. Ils oublient Allah. Mais le jour, pendant le Ramadan, ils reviennent avec force et rapidement, mais avec ferveur aussi. Ils font tout ce qu'il faut faire. Bien comme il faut. Le petit collier de barbe, tout ce qui pousse dans Ramzan d'ailleurs. Mais après le Eid, le 29e, il a déjà acheté les piles pour mettre dans... Comment appelle ça? Sa tondeuse. Ou il a fini d'acheter le Philips 3 lames, ou peut-être même 4 lames. Il dit que c'est bon, là j'ai fait ce que j'ai à faire. Je ne critique personne. Je veux dire, il n'y a aucune critique personnelle. Hein. Chacun, il analyse. C'est quoi? Comment est-ce que je vis ma religion? Baisse. Et moi, j'y pense aussi. Donc, il a déjà l'intention. Voilà. Même cette femme qui, durant le mois de midi, elle se couvre bien. Elle a déjà acheté sa robe, tel magasin, où il y aura le petit truc qui vient comme ça, et il n'y a pas l'éthique musulmane en termes de haya, en termes de pudeur. Et donc, cette personne, durant ce mois béni, il est au top, tahajjud. Tout ce qu'on peut faire, la personne fait. De sa tête, et c'est pertinemment que le jour de Eid, on repasse à notre vie normale. Notre vie normale. Mais il n'y a pas de vie normale. Est-ce qu'il y a une vie pour Allah, une vie normale? Non. Qul inna salati. Moi, je connais ce verset. Wa mahyaya wa mamati li liman lillahi rabbil alamin. Allah m'a créé pour lui, pour faire son ibadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah ne te demande pas de réunir le risque. Ça, c'est Allah qui te donne ça. Tu as été créé pour lui. Donc, cette personne, quand il arrive Kurbani, il va investir 6 000 euros dans un animal. Mais en dehors de cette période, il ne donne pas le monde à personne. Mais là, c'est important, c'est une tradition. Quand il va au Hajj ou au Umrah, si on connaît des gens quand ils vont au Umrah, ils font des actions. Où est-ce bête? Personne ne dit que je vais Haram Sharif, Makkah ou Madina, depuis avant Isha, je reste jusqu'à Ishra. C'est pas vrai, lui. Ibad. Et puis je rentre, je connais des gens qui font ça, je connais. Ils rentrent à l'hôtel, ils mangent, ils se reposent jusqu'à Zohar. Après Zohar, ils restent jusqu'à Maghrib. Ils ne bougent pas. Tilawatul Qur'an est incroyable, impressionnant. Mais ça, c'est pas la période. Et quand il revient à la Réunion, il revient normal, la vie normale. Mais c'est ça qui n'est pas normal. Cette vie-là, c'est la vie qui n'est pas normale. Parce que la vie du croyant, c'est une vie d'islam, de soumission, de sincérité, de fermeté et de constance pour Allah Azza wa Jal. Et donc ces personnes, comme on a dit, ils vont la dernière décade, ils ont l'intention de faire beaucoup de bonnes choses. Mais à la fin du Ramadan, ils vont retourner vers ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et à travers cet exemple, on a besoin de réfléchir, est-ce que je ne fais pas partie d'une certaine façon de cette catégorie? Et quels sont les manquements spirituels? Là, on met le doigt directement sur le problème et d'une certaine façon, les pieds dans le plat. On essaie de voir qu'est-ce qui fait que on n'est pas dans la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est la personne qui vit pour Allah, qui se réveille pour Allah, qui se couche pour Allah. Il attend un moment. Il y a un seul verset qui reste dans son cœur. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Il ne pense qu'à ça. Quand je retourne auprès d'Allah, le prophète m'a dit que مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ. Celui qui aime rencontrer Allah, qui attend quand je retourne auprès d'Allah, Allah aime le rencontrer. Et dans l'assemblée, clairement, levez le doigt. Si Malik al-Maut, pas notre Moutawali Sab, non, hein. Si Malik al-Maut entre comme il est en train d'entrer et il demande qui veut quitter ce dunya maintenant, debout et je vous emmène. Qui lève le doigt? Personne. Personne, que tu sois pratiquant périodique ou mufti, cheikh ou hadith, personne. Parce qu'on n'est pas prêt à mourir, parce qu'il y a plein de choses, on est rattaché à plein de choses, on a des dettes à droite à gauche, on a fait quelques petites bêtises, on n'a pas encore vraiment demandé pardon, et je suis attaché à cette vie. On est comme ça, mais celui qui arrive à ce degré spirituel, il n'a plus aucune attache de ce monde. Il travaille, hein, il peut être médecin, fonctionner, il peut gagner 10 000 euros par mois, mais son cœur, il vit pour Allah. Chaque seconde, c'est pour Allah. Même s'il a une vie engagée, et nous devons tous avoir une vie engagée, et être vraiment un élément essentiel dans le fonctionnement de la société, c'est important, mais avoir le cœur pour Allah, les pieds sur terre, mais le cœur devant avec Allah Azza wa Jal. Pourquoi on n'est pas dans cette situation de comme les sahaba, comme ces gens qui ont ces qualités? Quels sont les manquements spirituels qu'on a en nous? Premier manquement, il nous reste 20 minutes, on peut essayer de faire 2 ou 3 minutes par manquement sans trop développer. Premièrement, nous manquons de clairvoyance et de compréhension à propos de notre nature, de notre identité et de notre rôle sur terre. Très souvent, on s'identifie, on s'assimile à une culture, à une patrie et à une pratique rituelle. Une culture, je dis culture indienne, ou maghrébine, ou comorienne, ou malgache, ou peu importe. De quelle patrie? Je suis français et donc européen. De quelle pratique rituelle? Je suis la religion de l'islam. On va se dire que c'est bien tout ce que tu as dit là, parce qu'en même temps tu es citoyen, tu es engagé, tu es religieux. Oui, ça paraît pas mal tout ça. S'identifier à une culture, à une patrie, on y est. Il n'y a aucun problème, rien à redire là-dessus. Mais se dire musulman et vivre sa foi de musulman, c'est pas forcément la même chose. Et se dire musulman, on n'atteint pas forcément notre objectif. Et ça ne veut pas dire qu'on va vivre notre iman avec profondeur. On peut être musulman de nom, même de pratique, mais pas soumis à Allah. Qu'on n'est pas conscient des enjeux, on n'est pas conscient de notre engagement avec Allah. Et tant que tu n'es pas conscient de l'importance de chaque instant de ta vie et du rendez-vous que tu as là-haut et comment ça va se passer, la foi n'est pas encore entrée dans ton cœur, même si tu as les qualités extérieures de foi. Le prophète n'avait-il pas dit pour certains compagnons parmi les bédouins, « Qalatil a'rabu » Amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma ila akhir al-hadith. La foi n'avait pas encore entré dans le cœur, même si le fait qu'ils étaient à côté du prophète, ça fait deux des sahaba, oui ou non? Bien sûr que oui, mais il manquait. Et ensuite, c'est venu, certainement. C'est-à-dire que même nous, on doit bien être éveillé. On est musulman de nom, mais est-ce que dedans, ce cœur est soumis à Allah? C'est-à-dire, est-ce que ma conception du temps, ma conception des biens et de ma vie, elle est celle qu'Allah attend de nous? Si c'est le cas, je suis un vrai mu'min. Autrement, il y a encore du travail à faire. Et pour essayer de travailler ça, de scruter mon cœur, j'ai besoin de 2 versets. « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » J'ai créé les hommes, les djinns uniquement pour faire mon adoration. Si j'ai intégré ça, que je suis la créature d'Allah, mon but, j'ai été programmé pour adorer Allah du matin au soir à travers dans la masjid, mais dans mes relations avec mon épouse, avec mes enfants, dans mon commerce, tout ça, ça fait partie de l'ibada. Là, ça va. Autrement, si tu penses que je suis un bon musulman dans Ramadan et après je suis commerçant, je suis ingénieur architecte, je mène ma vie, là tu n'es pas dans, tu n'as pas cette qualité spirituelle. Deuxième verset, on s'arrêtera là pour cette qualité. Wattaqoo yawman turja'una fihi ila Allah. Si tu n'y penses pas tous les jours, si tu n'y penses pas tous les jours, c'est que dedans, c'est pas paramétré comme Allah le veut. Et c'est grave. Et on a besoin de travailler notre intérieur. Si chaque jour, si avant de mourir, vous savez, combien de personnes meurent dans leur sommeil? La mort, c'est pas appelé la petite, le sommeil, c'est pas la petite mort. Alhamdulillah, il a dit, ahyana. Quand tu te réveilles le matin. Il y a des gens qui meurent le matin, ils ne se réveillent pas. Pardon, il y a des gens qui dorment le soir, le matin, ils ne se réveillent pas. Qui te dit que quand tu te couches le soir, c'est pas ta dernière nuit? C'est-à-dire que penser tout le temps à la mort, ça, c'est une qualité propre au mu'min muttaqi, à l'homme pieux. Donc, dès maintenant, dans ta tête, parmi les points que tu dois retenir, un, rappelle-toi chaque instant, je suis la créature d'Allah, j'ai été créé pour son adoration. Deuxièmement, pense tout le temps à ce moment où je vais mourir et à ce moment où je vais me retrouver devant Allah, parce que quand je meurs et quand je me retrouve auprès d'Allah, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a des comptes à rendre auprès d'Allah. Parce que thumma tuwaffa kullu nafsin, chaque nafs, chaque personne va répondre de ses actions. Donc ce sont deux versets essentiels. Et j'ai pas besoin d'un alim pour ça. J'ai pas besoin d'un encadrement spirituel pour ça. Ce sont des versets qu'on connaît. Réfléchis. Même si on ne le connaît pas par cœur, réfléchis à ces deux sens. Mais tous les jours, ça, c'est du concret. Ça, ça te permettra d'avancer avec des bases et des valeurs sûres dans le Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Deuxième manquement. On va vite. On accomplit de bonnes actions, mais sans jamais penser à la finalité et à l'aboutissement des bonnes actions. C'est-à-dire que j'arrive pas à faire le lien entre le taravi que j'ai fait et l'au-delà. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure le ihtisab. Réaliser que chaque action que tu accomplis, il y a un dénouement auprès d'Allah. Et ça, ça te donne la niaque. Ça, ça te donne la motivation spirituelle pour faire et en faire encore plus. Parce que là-haut, Allah va m'accorder telle chose. Allah va m'accorder tel grade. Ça, ça donne de la vie à ta bonne action. Ça, ça te permet de décoller, de faire décoller spirituellement ta bonne action. Il faut réaliser que pour chaque action accomplie, il y a une suite dans l'au-delà. Mais attention, ça concerne les bonnes actions, mais ça concerne également les péchés. Quand tu fais ce que tu considères comme un petit dérapage spirituel, sache que là-haut, tu vas voir ce dérapage. Et l'ampleur que tu as décidé de lui donner, c'est un péché niveau 1, sur l'échelle de Shaitan, pas de Richter, de Shaitan, niveau 1. Mais qui te dit que pour Allah, c'est pas niveau 5, que c'est très grave ça? Donc, quand tu commets un péché également, réfléchis. Cela te sera présenté et réfléchis, vois quelle position adopter. On a une pratique souvent mécanique, traditionnelle, culturelle, qui est dépourvue d'âme et de sens. Et on va prendre, plutôt que des discours philosophiques, des grandes thèses, on va prendre un exemple concret, où on comprend de quoi on parle. Quand tu pries, Yahri, Yahurti, quand tu fais ta prière, réalise, comprends, ça sert à quoi? C'est quoi le sens de la prière? Ça, c'est Amru min Allah révélé lors du voyage nocturne accordé au prophète sans s'en directement. C'est le plus beau cadeau qu'un être humain a reçu de la part d'un prophète. Allah te donne. Tu mets ça de côté après le mois de Ramadan. Tu réalises pas que tu perds quelque chose d'énorme. Deuxièmement, réalise que quand tu ne le fais pas, le jour de Qiyama, la première chose, la première chose à propos de laquelle on te posera la question, ce sera tes prières, complètes ou incomplètes. Tu penses que les prières de 65 Ramadan de ta vie, c'est-à-dire, tu as prié 65 mois de ta vie, ça fait un douzième de ta vie, ça, je suis désolé, hein. Tu penses que c'est suffisant? Là, on parle d'un namaz qui manque. Quand il manque un namaz de ta vie, Allah demande aux anges de chercher, de trouver une solution pour compenser. Parce que un namaz qui manque, ça te met en situation d'échec dans le moment de hisab. N'en parlons pas des namaz que tu rates volontairement. Le qaza ne compte pas comme un namaz. Qu'on réalise bien, le qaza. Et c'est principalement dans le madhab de Bouhanif qu'il y a le kaza de façon aussi mutlaqan. Mais ne nous laissons pas tromper par le kaza. On ne doit pas se dire que bon, je travaille, quand j'arrive le soir, je rattrape tout. Tu as peut-être rattrapé, mais tu n'as pas fait tes prières. Jamais de la vie. Un namaz rattrapé, ce n'est pas un namaz qui va compter dans la balance. Ça reste un namaz raté. Les dalils sur le kaza existent, mais ça ne remplace pas le namaz ada que tu as accompli. Donc, quand tu pries, et quand tu flanches un peu sur ta prière, garde juste ce hadith à l'esprit, pas de grand discours. Et là, tac, spirituellement, ça te réveille et tu comprends les priorités. Réalise que, qu'est-ce qu'on peut dire encore pour ne pas être trop long, développe, oui, allez, on va clôturer avec ça, développe le ihtisab, on arrête avec le versant là, développe ce ihtisab, ce lien entre tes actions, tes décisions et l'au-delà. Et tu deviendras le plus pieux des hommes. Même en accomplissant peu d'actions. Et comment on développe ça, Moïsab? Et qui ça, il faut faire bête avec vous? Non, moi, je ne fais pas bête. Je ne donne pas de bête et je suis trop bête pour bête ça. Pense à ce verset. Et dis-tu, mais un verset, mais il n'est pas Havez Kouran. Non, pas besoin Havez Kouran. Ou connaît Ida Azul Zatil Ardu par cœur? Oui, tout le monde connaît Ida Azul Zatil Ardu par cœur. Pense à la fin. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Médite sur ce verset tous les jours. Et jamais plus tu vas te dire que, oui, j'ai regardé cette femme traversée, mais elle était belle. Mais j'ai pas fait le zina. Tu vas réaliser que ça sera présenté devant le tribunal d'Allah. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? Tu vas dire, ya Allah, j'ai pas fait le zina, j'ai regardé. Ah bon? Dans le Coran, il n'y a pas qu'il y a des mu'minina yaghuddu min absarihim Et qu'on les mu'minat, yaghudna min absarihim, dit aux croyants de baisser le regard. Dit aux croyants de contrôler leur regard pour Allah. Tu viens d'enfreindre un haram. Et devant Allah, tu as des comptes à rendre. Si tu réalises, médite, basse, tu as ces deux derniers versets de Idazul Zetil Ardu, tu ne verras plus la vie de la même façon. Chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas réfléchir. Et c'est ça qu'on veut, des gens qui réfléchissent. Pas des gens qui produisent. On n'a pas besoin de la grande distribution. On a besoin de la qualité, du label taqwa, label ihtisab, label muraqabatullah, label ikhlas, label tawadu', khushu', imkisaru lillah, label istislamu lillah et label istiqam. Vous avez tout ce qu'il nous faut. Mais on ne peut pas tout développer, on s'arrêtera à un ou deux points. C'est tout ça qu'on a besoin de mettre dans notre cœur, ce islah du cœur, pour que les actions aient vraiment un sens et qu'ils décollent et que ça nous permet de bénéficier spirituellement de l'action. Donc, un sahaba avait entendu ce verset. Et ça c'est bien. Vous êtes fatigué là, non? On essaie de rester concentré, il nous reste 10 minutes. Inch'Allah. Un sahaba, il entend ce verset, il pose une question. Et ça c'est bien, ça te permet de réaliser que il y a des fois où on se pose des questions, qu'on entend un verset et tout, on n'ose pas demander. Il faut demander. Les sahaba, ils ont demandé, ils ne comprenaient pas. Il dit, au fait d'Allah, tu es sûr? Non, c'est bien ça? Ben nous aussi on se pose des questions. Ça a plein de ça. Il a trompé, non? Il a mal, les aides le jouent à apprendre hadith. Il était d'or. Non, il était d'or. Pas lui qui a été madressa. C'est la réalité. Mais si tu as un doute, demande. Tu comprends pas, demande. Il n'y a rien de plus bête. Excusez-moi, c'est pas un terme péjoratif. Il n'y a rien de plus triste. C'est bien. Hein, qu'un croyant qui pratique sans comprendre. Il a dit fait, il faut faire. Quelle soumission à Allah. Si tu comprends pas pourquoi tu te prosternes, fais-le, hein, continue, c'est ton devoir. Mais est-ce que tu vas trouver, tu sais, tout ce qu'on a dit, les 9 termes, là, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Halawatul iman, douceur de la foi. Mais quelle douceur de la foi tu vas avoir si tu comprends même pas le sens de ta prière? S'il n'y a pas istiqama, khushu, tawadu, inkisal, lillah, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, tu ne développeras jamais halawatul iman. Et les sahaba, ils avaient tous développé halawatul iman. Ce qui fait que sahaba, il est en train de manger des dates. Le prophète a dit que les musulmans sont en difficulté, il faut que tu apportes ton aide. Et dit que et tu peux obtenir le jannah. Il se réfléchit, entre moi et le Jannah, il y a quoi? Quelques dates. Il dit que c'est un pied de mon temps là. Il jette les dates et dit que Nusrat d'Allah. Dans des situations, dans des contextes particuliers bien sûr. Il dit que tu arrives, ça te donne une autre vision de la vie. C'est-à-dire on a besoin de cette vision spirituelle de l'islam. On n'a pas besoin de beaucoup de pratiques, on a besoin de la vision spirituelle. Walakin shay waqara fi qalbi comme Abu Bakr, quelque chose qui était waqara, qui était ancré, qui était dedans, qui était fort, qui fait qu'il était le meilleur des hommes après les prophètes. Pas beaucoup d'actions, pas beaucoup d'actions bien sûr, pas énormément plus que les autres, mais on a besoin de ces qualités intérieures parce que quand tu l'as, quand tu les as, tu ressens la douceur de la foi et là tes prières deviennent. Comment le prophète a qualifié la prière? Là, personne ne connaît le terme, fraîcheur de mes yeux. Dites-moi clairement, honnêtement, quand vous venez faire 20 rakats de taravih, c'est la fraîcheur de vos yeux ou c'est la douleur de vos genoux? C'est pas trop la fraîcheur de nos yeux. Parce qu'on ne ressent pas la douceur de la foi. Celui qui ressent la douceur de la foi, voit quand il pose son front sur le sol là, il aurait souhaité que ce front ne décolle jamais du sol. Ça c'est quand la douceur de la foi pénètre de le cœur. Mais il y a un travail, un islah, un travail énorme à faire pour ça. Et la clé de halawatul iman, c'est délaisser le haram. On a prévu de parler de ça, mais en termes de timing, ça ne va pas aller. Khair, inshallah. Et donc, sahaba dit, ya Rasulallah, mithqal dharra, on l'a bien dit, un atome. Enfin, en langage moderne, on dit un atome, un iota. Mais mithqal dharra, on pourrait dire comme un grain de maïs ou une petite quantité. Le prophète m'a dit, oui, au sahaba, c'est un arabi, c'est un bédouin qui avait demandé. Le prophète m'a dit, oui, même une quantité infime, la personne, il a dit, wasaw ata. En français, c'est impossible de traduire. C'est comme si il attrapait sa tête. Il a dit, ayo baba. Ça, c'est mauricien, hein. Il attrape sa tête. Il a dit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Il appartient en attrapant sa tête. C'est moi qui rajoute, hein, mais l'expression en arabe, c'est wasaw ata, c'est autre chose, c'est qu'il prouve également un état de choc. Il était choqué spirituellement. Comment Moussa a fait? Le moindre péché, on aura des comptes à rendre. Il dit qu'il y a un travail. Et à partir du moment où il entend ça, il s'en va. Il reste pas pour une chose. Ça me dit que, il reste à côté, oui, il y a Rasulallah, il faut traiter. Il dit, il y a un travail pour faire. notre travail pour faire, parce que quand je rencontre Allah, je ne veux pas qu'il y ait un atome de péché. Et là, quand il s'est éloigné, le prophète m'a dit, la parole du prophète, elle est magnifique. Le prophète m'a dit, regardez cet homme qui vient de partir, là. Laqad dakhala qalb al-arabi al-imanu. Le iman vient d'entrer réellement dans le cœur de ce bédouin. Parce qu'avant, il n'avait pas compris la relation entre les petites actions et l'au-delà. Là, quand il a compris qu'une moindre action s'est pesée dans la balance, il a compris et il a eu un choc spirituel. Maintenant, al-an, et j'aimerais, on aimerait que nous aussi, un jour qu'on atteigne ce degré que laqad dakhala al-iman fi qulubina, qu'un jour la foi rentre réellement dans notre cœur. C'est ça qu'on a besoin de développer. Fais une relation entre tes actions, entre tes paroles et la balance. Là, tu vas comprendre, là, tu vas réaliser vraiment le lien entre ce dunya et le akhira. Il y a d'autres récits où d'autres compagnons ont demandé la même chose. Et un sahaba, lorsqu'il a entendu ça, dit « La ubali, Allah asma'a min al-Qur'an ghayraha, hasbi, hasbi, qad intahat al-maw'idha. » Quand le prophète a reçu ce verset, un sahaba a entendu, il a attrapé sa tête pareil. Ce maqarif lui a dit que « Je n'ai besoin maintenant de rien d'autre, c'est suffisant. Le sermon a atteint son objectif, il peut partir ailleurs. » Il a compris qu'il oriente sa vie avec ce verset. Ça, c'était qualité de sahaba. Il entend un verset, ça change sa vie. Nous, on a besoin d'une 15, une 32 temps pour voir s'il y avait des choses intéressantes. Ça rentre pas parce qu'il y a d'autres facteurs péché qui durcit le cœur. Ça, c'est autre chose. Mais on a besoin, méditons ce sujet. On a donné trois pistes, deux ou trois pistes comme maintenant. Quatrième piste, réfléchis tous les jours avant de dormir sur فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ et شَرًّا يَرَهُ dans les deux cas de figure. Et là, tu vas réaliser chaque seconde et chaque décision, chaque parole de ce dunya. Troisième manquement, on a un manquement de le premier pilier de la foi. C'est quoi le premier pilier de la foi? Al-iman billah. On croit que moi je suis croyant, ça va, tout va bien. Tu crois pas beaucoup à Allah. C'est méchant de dire ça. Tu crois pas vraiment à Allah. On ne croit pas vraiment à Allah. J'ai pas dit qu'on est kafir, hein. Ça on laisse pour d'autres. Allah nous protège de ces mouvements de takfir, que jamais ça arrive pas à la réunion. Allahumma amin. On ne dit pas qu'on n'est pas musulman, mais on ne croit pas vraiment en Allah. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire? On ne croit pas en Allah comme on devrait croire en Allah. Si on demande à quelqu'un qui est Allah, elle dit ben, Allah c'est notre créateur, Allah il donne nous rosi, Allah il donne nous la vie, Allah il donne nous la mort. Allah il donne nous l'argent, il donne la richesse, la pauvreté. Après, si tu as été un peu dans. Tu sais, tu connais plein de choses, ok. Ça s'arrête à là. Mais croire en Allah, ce n'est pas uniquement ça. Il y a deux points à rajouter, ça change tout et ça complète ton iman billah. Prise de conscience que notre Créateur nous voit et qu'il nous observe et qu'il voit chacune de nos décisions. Il entend chaque parole, il voit ce qu'il y a dans notre cœur, il connaît nos faits et nos gestes. Comment ça s'appelle en arabe? Muraqabatullah. Ça veut dire quoi muraqabatullah? C'est la pensée permanente d'Allah. Dans le sens original utilisé par les pieux prédécesseurs, les muhaddithines, muraqabatullah, c'est tu penses à Allah tout le temps. Est-ce que ça veut dire que tu dois avoir un tasbih tout le temps avec toi? Et ça, c'est une parole magnifique de certains savants. Une personne peut faire le dhikr 1h30 et ne plus penser à Allah toute la journée. Il ne fait pas partie des dhakirin Allah et kathira. Une personne peut penser à Allah 10 minutes ou même pas. Quand il marche, il dit « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar » des adhkars basiques. Et il fait partie des dhakirin Allah et kathira. Comment ça se fait? Parce qu'avec quelques dhikr, ça lui permet de penser à Allah du matin jusqu'au soir. Et si tu penses à Allah tout le temps, tu vas regarder cette femme étrangère. Est-ce que tu vas aller faire ce travail qui n'est pas bon? Est-ce que tu vas manger quelque chose qui est haram? Est-ce que tu vas dire quelque chose? Là! Et quand tu penses à Allah tout le temps, est-ce que tu te dis que, ah, namaz, à 5h, 15h, ah, mais reste magasin. Mais bon, il fait namaz, jamad, ma fille 30 jours. Non! Tu penses à Allah, et la pensée d'Allah doit se retrouver dans tes tasarrufat, dans tes actions. Ça, c'est l'homme qui pense tout le temps à Allah, Azza wa Jal. Donc, le muraqabatullah, une prise de conscience à tout instant, il nous reste une minute 53 secondes, une pensée permanente d'Allah Azza wa Jal, ça c'est une qualité de foi. Comment développer ça, Moïsab? Oui, pense à ce verset qui est un peu plus difficile, de le 19e, c'est pas le verset qu'on aime. Wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yarak. On n'a pas le droit de faire des gestes quand on parle d'Allah alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin innahu huwa as-sami'ul 'alim. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux qui te voit quand tu te lèves, c'est-à-dire quand tu pries, et qui voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. À chaque instant, n'oublie jamais qu'Allah te voit et n'oublie jamais qu'Allah a mis des anges qui écrivent tes actions. Celui qui pense à ça tous les jours, il a les qualités de mu'min muttaqi. Là, intérieurement, il est en train d'avancer, mais concrètement. Et du coup, ses bonnes actions auront un socle solide. Et l'éloignement du péché deviendra quelque chose de permanent et non pas de périodique, uniquement durant le mois de Ramadan. Hada. Quatrième manquement, on a un rapport faussé avec le temps. D'ailleurs, ce qu'on a dit, il vient Ramadan et puis il vient plus. C'est un rapport faussé avec le temps. Comment compenser ça? Pense à un verset. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Oh, les moufassins disent, la certitude, c'est quoi? C'est la mort. Il y a que tu es adorateur d'Allah jusqu'à la dernière seconde. Le mu'min, pourquoi il doit mourir avec la ilaha illallah? Allah maja'alna minhum. Qu'Allah nous accorde la mort avec le kalima. C'est parce que jusqu'à la dernière seconde de ta vie, tu restes dans l'ibadat d'Allah Azza wa Jal. Et dans notre rapport faussé avec le temps, le problème aussi, c'est on ne réalise pas ce que ce dunya représente réellement pour le croyant. Et là, pense à ce hadith que tout le monde a appris à la madrasa. Kun fi dunya ka annaka gharib. Vis dans ce monde comme si que tu es un étranger. C'est fini. Ou comme si que tu es en train de traverser. J'aime donner cet exemple. Quand tu vas à Umrah ou Hajj, tu fais réunion Maurice, Dubaï. Hein, Mohamed. Quand tu t'arrêtes à Dubaï, tu vois la grosse Ferrari et ainsi de suite. Est-ce que tu dis que, bon, là je vais investir dans l'immobilier, je vais acheter cette voiture, je vais faire un crédit sur 2 ans. Tu as 3 heures de transit. Juste de quoi te rafraîchir, mange un petit truc, et puis tu repars. Va, le hall, il est loin, tu dois changer de terminal, tu dois prendre le métro pour aller là-bas. Grouillahou, parce qu'il m'y reste 20 minutes avant, il ferme la porte, ou rentre plus, monsieur n'a boarding. Allez, l'objectif n'est pas atteint encore. Tu es à mi-chemin. Continue, continue. Ne regarde pas, tu es en train de perdre ton temps. Tu as besoin de quelque chose, de le duty-free. Prends un petit truc à manger pour pas faire hypoglycémie non plus. Un petit truc sucré, bois quelque chose. Trace, avance, exactement ça. Abir Sabil, tu avances. Même si Allah t'a donné beaucoup. Allah t'a pas donné beaucoup pour tout manger, tout utiliser de ce dunya. Allah t'a donné, c'est une épreuve pour toi, comment tu l'utilises pour que quand tu retournes auprès d'Allah et on te demande des questions sur chaque bienfait, tu sois capable de répondre et d'être parmi les muttaqi. Hada. Et cinquième et dernier point, on va s'arrêter avec là. Cinquième manquement, faiblesse de foi en l'au-delà. Je prononce ces paroles avec beaucoup de précaution, mais je peux le dire, on ne croit pas vraiment au akhirah. Quand quelqu'un est prêt à revenir vers le haram totalement, après le mois béni, je donne un exemple, une femme qui se couvre bien, et après le ramadan, un autre mode vestimentaire. Un homme qui prie tout le temps à la masjid, après le ramadan, dans sa tête, il connaît, il vient plus, c'est fini, c'est bon, rendez-vous l'année prochaine. Il a réalisé ذلك, عليها فقس. Par analogie, vous voyez, je donne deux exemples. Chacun réfléchit en fonction de sa personne. On peut moufti l'arriver, faut arrêter là. Chacun réfléchit en fonction de sa personne. Si tu arrives à faire la part des choses, mais là de le sens négatif, à dissocier la vie de ce monde et de l'au-delà, si tu arrives à te dire que là, on fait, mais là-haut, c'est autre chose. En fait, là, tu n'y penses même pas au akhirat. Quand tu es dans le péché du matin au soir, là, et quand tu vas contracter un prêt avec riba, avec intérêt, ou tu vas sortir avec cette femme, tu vas faire l'adultère, ou le riba, quel que soit le péché, petit ou grave, à vous de voir tous les péchés qui existent. Ben, à ce moment précis, là, tu ne penses pas du tout au moment où Allah va te faire ressusciter. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont ressuscités là, ils vont direct sous l'ombre du trône d'Allah. Allahumma ja'alna minhum. Il y a d'autres, quand ils sont ressuscités, la yaqoumouna illa kama yaqoumou alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass. Ils sont ressuscités avec déshonneur, comme quelqu'un qui est possédé par le diable. Humiliation devant la création, qu'Allah le protège. Donc quand tu as commis ce péché là, tu n'as pas pensé, mais comment est-ce que je veux être ressuscité. Tu n'as pas pensé, reviens-tu en arrière, comment est-ce que je veux que l'ange de la mort reprend mon âme. Tu n'as pas pensé une seconde, quelles actions je veux voir avec moi dans la tombe. Tu n'y as pas pensé. Tu n'as pas pensé une seconde, quand Allah, il y a le fameux verset, « Fala tasma'u illa hamza », tout ça c'est prévu, mais on n'a pas le temps. Quand on est ressuscité, il fait noir, de l'obscurité. Il y a le soleil, il y a les qui sont en train d'être éteints, et ainsi de suite. Et les gens ont peur, ils entendent l'appel, et les gens suivent. On vous appelle vers cette terre de Mahshar, les gens marchent et suivent, et personne ne vous passe à bouche. Fala tasma'u illa hamsa. Les moufassins disent qu'on entend juste le bruit des pas. Des milliards, des milliards, des milliards d'êtres humains qui sont là, il n'y a pas un qui parle, on entend juste les gens se déplacer. Ils sont sidérés. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça n'a pas les cœurs. Wa balagatil quloubul hanajir. C'est comme si que le cœur remonte au gosier. Les gens y sont pétrifiés de peur. Ils voient le tribunal d'Allah qui se met en place, le ciel qui éclate, qui s'ouvre, les anges qui descendent. On avait parlé de ça il y a 5 ans à peu près. Ils comprennent pas c'est quoi ces anges. Tellement ils sont choqués. Certains demandent, est-ce que Allah est parmi vous? Dit, Asna'oud Billah, nous ne sommes que les anges d'Allah. Et ils voient le deuxième ciel qui éclate. Et les anges viennent massivement. Et ils font des cercles. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils font des cercles. Vous savez pourquoi ils font des cercles? Pour ceux qui se rappellent de ce qu'on avait dit. Parce que dans un instant, l'enfer sera présenté à la création. Et les gens, ils vont faire quoi? Ils vont fuir. Et quand ils essaient de fuir, Yom Tanad, le jour où on voit tout, on rencontre tout, les anges t'empêchent de partir. Si tu restes là, parce que le jugement va commencer. Quand tu as accepté les avances de cette femme-là, ou quand tu as signé ce contrat haram-là, ou quand tu as décidé qu'après Ramadan, il prie, puis il fait namaz-là, tu n'as pas pensé une seconde, toi. Où est-ce que tu vas te ressusciter? Ma'a an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada wa as-salihin, ou ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman, qu'Allah nous protège. Si tu y avais pensé, tu n'aurais pas pris cette décision. Quand tu as accompli ce péché, pas une seconde, tu as pensé que le jour les livrets de compte sont remis. Mais il y a également ceux qui ont le livret de compte. Bishimali, ouwara'a, vahri, qu'Allah ne protège, que jamais on a à faire ce geste. Et que cet homme qui reçoit biyamin, il va dire, là-haut, tu peux être fier de toi. Ici, tu n'as pas à être fier de toi. Là où tu peux dire, venez, lisez mon livret, j'ai réussi. Mon Allah m'a accepté. Et on demande aux anges, accompagnez ce serviteur vers le Jannah. Vous vous rappelez du bayan de il y a 4 ans, c'est le paradis à peu près? On cogne la porte du paradis, le Jannah s'ouvre. La première chose qui arrive, c'est l'odeur du Jannah, le parfum du paradis. Premier sens. Ensuite, tu vois, tu as un visuel. Ma la aynun ra'at, ce qu'aucun œil n'a jamais vu. Et tu vois, et tu entends le bruit des ruisseaux. Wa la udhunun sami'at. Et tu vois ce que tu ne pourrais même pas imaginer. Wa la khatara ala qalbi bashar. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Mais il y a des gens qui sont dirigés vers l'enfer, comme on l'a dit en introduction, ce genre, cette autre catégorie de personnes. Mais donc, quand tu as fait ce péché-là, ou quand tu n'as pas voulu faire cette bonne action, tu n'as pas pensé une seconde, toi, comment tu reçois ton livret d'action? Tu n'as pas pensé une seconde que, et que les balances, en ce sens, juste seront installées, et qu'on t'appelle, Mohammed, viens, Abdullah, fils de Ismaïl, fils de Ishaq, est appelé pour le jugement. On est appelé par notre nom, le nom de notre père et de notre grand-père selon certaines choses. Nominatif, tu viens et les gens te regardent. C'est comme si là quelqu'un il lève, ça va. Tout le monde regarde, ça va. C'est son tour. Allahu Akbar. J'ai été une fois, pas du sujet, sans perdre de temps, dans une salle où les gens faisaient un scanner. Et c'était à Madina Chalif. Donc les gens attendent, chacun son tour. Là encore, on regarde le bougie rentre, on regarde comment il sort. Parce que quand il fait l'image, le docteur dit, oh, si on a une tumeur ou non. Au fait, scanner, c'est pas pour voir si ça va, c'est voir ce que tu vas vivre avec un cancer ou non, quand on le protège. Et là, tu te dis que, c'est son tour. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Quelle nouvelle il va avoir? Quand on attend les résultats de l'IRM, ainsi de suite. Comment cap il monte? Mais le jour de Qiyama, c'est un autre niveau. Quand tu vois la personne qui va vers le tribunal d'Allah, tu dis, Allah, c'est son tour, ça c'est mon voisin, ça. Bikoni Ali, mais est-ce qu'il dit ça dans le Jannah, dans le Jahannam? Après, quand on t'appelle Ibrahim, Ibrahim, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu penses là? Il n'y a pas une personne qui ne passera pas cette étape. Donc quand tu as fait ce péché là, tu n'y pensais pas. Tu sais pourquoi tu n'y pensais pas? Je vais être cru là. Tu n'y croyais pas. Je n'ai pas dit qu'on est kafir. Tu n'y pensais pas parce que tu n'y croyais pas vraiment. Tu avais un concept kiamat. Oui, ça va parler de kiamat. Mais si tu approfondissais ta connaissance sur Al-Yawm Al-Akhir à travers les versets qu'il y en a, il y en a beaucoup, ben tu penserais autre chose. Quand une semaine après Ramadan, mon camarade vient dire, nous retournons à la villa. La villa, c'est Saint-Gilles. Hein? Nous retournons, allons en boîte, mon copain, on a fini d'organiser, on a fini de réserver la table. Tout. Tu réfléchis que ben, quand il sera devant Allah, je veux dire à quoi? On m'a amené, on m'a dit qu'il faut aller s'amuser, je suis jeune. Ou tu vas penser que le jour de Qiyamah, il y a des jeunes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah parce qu'il a passé sa vie dans le ta'a. On peut finir avec ça. Si tu penses à l'au-delà, si tu approfondis tes connaissances sur chaque étape de l'au-delà, ça change ton intérieur. Et dedans, il n'y a que des bonnes choses qui sortent, qui émanent, et ça va se ressentir dans des bonnes actions. Mais nous restons jahil, nous sommes ignorants. On croit que connaître la religion, c'est réservé pour Ben Moulissab, ça. Ali, c'est Ali Mufti, il n'est pas à apprendre. Tu as besoin d'apprendre en permanence, et tu as besoin d'apprendre ce qui te sera profitable, ce qui va t'apporter quelque chose spirituellement, ce qui pourra renforcer ta relation avec Allah. Ikhwani fillah, akhawati fillah, qu'Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles et que la réalité pénètre nos cœurs, qu'Allah nous donne les qualités intérieures. J'espère qu'on pourra avoir cet électrochoc, ce choc spirituel qui nous réveille, qui nous fait prendre conscience que wattaqu yawman turja'una fi illallah, c'est pas wattaqu laylatul qadr, c'est pas craignez la fin de Ramadan, c'est craindre le jour où tu es ramené vers Allah, parce que c'est là-haut que tout va se dévoiler. Qu'Allah accepte notre Ramadan, qu'Allah accepte nos actions, qu'Allah nous pardonne nos manquements, qu'Allah nous permette d'avoir les qualités intérieures pour que les actions aient de la valeur, qu'ils décollent spirituellement, qu'Allah nous permette d'avancer vers lui, qu'Allah pardonne nos manquements dans nos bonnes actions, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah nous accepte pour faire tahajjud 30 jours, tarawih tous les jours, Quran tous les jours, dhikrullah tous les jours, dua tous les jours, rabbul basar, contrôle du regard tous les jours, contrôle de la langue tous les jours, contrôle de tout, de istislam, de l'insoumission d'Allah tout le temps, jusqu'à la fin du Ramadan, et istiqamatu alayha, et fermeté, continuité de ces attitudes spirituelles toute ma vie, hatta ya'tiyana al-yaqin, jusqu'à ce que la mort nous vienne et qu'on rencontre Allah en étant des personnes soumises, et qu'Allah nous protège des pièges de shaitan et de l'impression d'être dans le droit chemin et de toutes ces faussetés, des maladies spirituelles. Qu'Allah nous accepte, qu'Allah nettoie nos cœurs durant ce mois béni, qu'Allah enlève ces taches noires, cette rouille, qu'Allah enlève tout ce qui est superficiel et nous donne les réalités de la foi. Il n'y a pas besoin de faire d'autres doigts, ce sont les doigts les plus importants. Qu'Allah nous accepte. توفيق الله بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.